Alors, bienvenue à chacun ce matin. Nous sommes contents, chacun de nous, de pouvoir être là. Et bien sûr, on pense à ceux qui ne peuvent pas, qui voudraient bien être avec nous, mais qui ne peuvent pas. Et ce matin, on a une pensée particulière pour Michel Molliard. Vous avez eu des nouvelles un petit peu, certains. Donc, on savait, c'était prévu qu'il doive être réopéré dans un mois, mais ce qu'on savait pas, c'est que, entre-temps, il pourra pas rentrer à la maison, parce que son état de santé ne le permet pas. Donc il va rester à l'hôpital pendant un mois et demi. C'est long, c'est pas facile. Donc on a une pensée particulière pour lui. Mais aussi on peut penser à nous tous. On a chacun des défis, on a chacun des choses pas forcément faciles ou joyeuses à vivre par moment. Et pour cela, pour s'encourager dans nos vies de chacun, notre quotidien de chacun, on va lire quelques versets du psaume 46.
Le Seigneur de l'univers est à nos côtés. Dieu est pour nous un appui solide et sûr. Il est toujours prêt à nous aider dans le malheur. C'est pourquoi nous n'avons pas peur. Même si la terre se met à bouger, si les montagnes tombent à fond de la mer, son eau rugit et soulève l'écume. Les vagues de la mer se dressent et font trembler les montagnes. Mais une rivière coule et réjouit la ville de Dieu, la plus sainte des habitants, des habitations du Très-Haut. Dieu est dans cette ville et elle ne tombera pas. Le Seigneur crie: arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je remporte la victoire sur tous les peuples. Je remporte la victoire sur toute la terre. Il est à nos côtés, le Seigneur de l'univers. Il nous protège avec puissance, le Dieu de Jacob.
Alors aujourd'hui, c'est un culte un peu particulier. On l'appelle un culte convention. Ça veut dire quoi? C'est un culte, en fait, où plusieurs personnes qui ont participé à la convention de l'association cet été vont donner un témoignage ou un partage ou parler d'une petite partie d'un thème qui a été traité pour peut-être vous donner envie de l'écouter sur le site de l'église, par exemple. Le thème, c'est un temps pour tout, pause biblique et pratique sur notre rapport au temps. Alors, comment ça va se passer? Ben, on va déjà commencer par laisser parler Michel. Ensuite, Suzanne et Henri viendront et Lydie. Puis après, on aura un chant.
Ah, une phrase de Paul que j'aime bien et qui dit: que la paix de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Donc, amen. Donc, mon impression, ce que j'ai ressenti pendant ces 4 jours, c'est vraiment beaucoup de paix. J'étais bien. C'est super pour moi. Et donc ces 4 jours ont été pour moi un ravissement. Cette joie de partager avec des frères et sœurs sur la parole, et aussi des échanges à travers des ateliers dans un contexte différent avec des frères et sœurs venus d'un peu de partout. Il y a eu plusieurs travaux et j'ai pris tout naturellement celui de la chorale. Nous avons eu aussi une sortie pour Vichy et ses sources thermales, et nous avons goûté l'eau qui était difficile à boire, en fait. Je dirais que vraiment, j'ai eu l'impression de complètement couper avec mon quotidien pendant ces 4 jours. C'était vraiment super et je le recommande au maximum de frères et sœurs qui voudraient venir la prochaine fois. C'est vraiment quelque chose que je recommande. Voilà. Gloire à Dieu. Je laisse la place peut-être à Suzanne et à Henri.
Voilà, on va vous parler un peu de la convention. Tout d'abord, je remercie Annie et André. C'est grâce à eux si on a pu y aller, parce que c'est eux qui nous ont donné l'idée et l'adresse. Et vraiment, je les remercie, car nous avons passé vraiment 4 jours merveilleux. Il y avait vraiment des bonnes choses à écouter. Nous les avons enregistrées. Je remercie Hadj de nous avoir fait passer. Et on a déjà réécouté 2 fois, surtout le pasteur belge, que moi, il m'a beaucoup touchée. Et vraiment, je vous conseille, si vous pouvez y aller, il faut y aller. Parce que quand on revient ressourcé. Et de voir que tout le monde ensemble a le même regard vers le Seigneur, c'est vraiment une grande joie. Et tout le monde adore le Seigneur, tout le monde le connaît. Et vraiment, c'était vraiment une bonne chose que nous avons passé là-bas.
Et d'ailleurs, on ressent, en étant là-bas, on ressent vraiment la fraternité. On ne connaît personne. Nous, nous ne connaissions pas grand monde. Parce que, bon... maintenant, on connaît tout le monde. Et tout le monde nous connaît. Surtout, enfin, nous particulièrement. Enfin, je ne vous dirai pas pourquoi, mais... enfin, je vais vous le dire. Nous étions les plus vieux de la convention. Et en plus, on avait un chien dans les bras qui ne bougeait jamais. Alors, à chaque fois que les gens nous voyaient... voilà. Mais vraiment... question spirituelle, je pense qu'on passe 4 jours au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Il n'y a pas de... les conférences, les ateliers. Vraiment, c'est des choses tellement prenantes que quand on repart de là-bas, on est vraiment ressourcé. Disons, on repart plein de joie. Voilà.
Merci.
Lydie.
Pour ma part, je veux seulement donner un petit conseil, enfin, pour les parents, les grands-parents, qu'il ne faut pas qu'ils se privent de venir à une convention, parce que nous, on avait, Christian et moi, notre petit-fils Noé, et il a été très bien, il s'est vraiment plu aux activités. Il y a des personnes qui les prennent en charge, ils font des tas de choses, des histoires, des chants, ils font des jeux dehors, dedans. Il était vraiment heureux, il connaissait personne, mais vraiment, il a beaucoup apprécié tout ce qui s'est fait pour les enfants. Il se réunissait même le soir pour les rencontres du soir, alors qu'on pensait que... Moi, je pensais que je n'irais pas le soir parce qu'il ne serait pas pris en charge. Voilà, donc c'est pour encourager que... Ils sont heureux d'être là-bas. Du moins, lui, il était petit dans le groupe des maternelles. Il y avait aussi il se réunissait le soir avec des plus grands. Et voilà, tout se passait bien. Voilà.
Ensuite, ce sera le tour de Simone et ensuite Elena. Comme ça, Elena, tu peux déjà te préparer tout doucement.
Ben moi, je vais partager avec vous une joie que j'ai eue là-bas et que j'étais peut-être la seule ici à avoir eue. C'est que je suis retournée longtemps, longtemps, longtemps en arrière et j'ai retrouvé presque tous mes amis de Colmar, enfin beaucoup de mes amis de Colmar. Alors, dès le début, l'accueil, c'était 2 amis. Je descends l'escalier. Bon, là, c'était pas une amie de Colmar, mais c'était Anne Mola. Et ensuite, dans toutes les activités... Je rencontrais mes amis d'autrefois, donc c'est un temps pour tout, mais un temps très très loin, voilà, parce que ça fait maintenant 41 ans que je suis ici. Mais j'ai eu beaucoup beaucoup de joie à voir tous les jours des amis que j'avais revus pour certains un peu, mais d'autres pas, qui ont comme moi changé, soit avec une canne, moi pas très solide, bon, ben, mais on se reconnaît, on se retrouve, voilà. Ensuite, je voudrais vous présenter quelqu'un. Si tu as la photo de Colette. Colette. Voilà. Alors, Colette, c'est, dirais-je, pour Gilles Geyser, son miroir, son vis-à-vis, ou sa conscience et sa porte-parole. Et ça permet de dire des choses théologiques, très simples. Parce que ben, c'est Colette qui l'a dit, Et c'est, j'ai en particulier retenu quand Colette disait à Gilles, oui, on connaît les chrétiens pour ce qu'ils ne font pas, mais il faut aussi qu'on les connaisse pour ce qu'ils font. Voilà, c'est ces deux événements de la Convention.
En fait, Colette, elle est sur sa...
C'est elle, Colette.
Elle est là. Elena, merci.
Bonjour. Je voulais remercier le Seigneur aussi. Parce que grâce à Dieu, mais grâce à la famille Ravassa qui m'ont invité, et même ils se sont proposés de nous aider financièrement, une grande moitié de la somme. Et je remercie aussi la famille Sauve, parce qu'ils nous ont encouragés, pour mon mari qui vient aussi dimanche. Et pour votre aide, je vous remercie. Et je voulais témoigner par rapport à moi. Quand je suis arrivée, c'était la première fois que je suis arrivée dans une convention, et je l'ai vécu très bien. Le début, quand je suis arrivée, j'étais un peu, je me suis sentie un peu timide par rapport. J'ai vu autant de chrétiens, des frères et sœurs. Je me suis dit, je ne vais pas m'inscrire à les ateliers, à tout ce qu'ils ont prévu, parce que je ne connais pas les gens et j'avais cette timidité d'aller vers les gens. Mais pendant que j'étais dans ma chambre là-bas, je me suis dit, je ne vais pas pouvoir profiter de tout ça si je reste tout seul dans mon coin. Et j'ai senti qu'il fallait que je m'inscris à des ateliers et puis d'aller vers les gens. Et puis, une fois que je me suis inscrite, le soir, je me suis inscrite pour presque tous les ateliers. Je voulais juste être avec les frères et sœurs et puis partager cette joie. Effectivement, je me suis sentie tellement dans la joie et dans la paix de Dieu, parce que ça m'a fait beaucoup de bien, les témoignages que j'ai écoutés, et aussi de pouvoir parler de Jésus, d'échanger, de faire des amis. Et voilà, c'est tout ce que j'ai vécu, et je rends gloire à Dieu et je lui remercie. Merci.
J'ai pris quelques parties de l'intervention. Il s'appelle Philippe Moore, ça s'écrit avec un P-H-I-L-I-P. Il n'y a pas deux, hein. C'est en anglais. Il est anglais, oui, il est en anglais. Ouais. Et sur le thème affermir nos priorités. Je vais vous faire passer une vidéo, ne vous inquiétez pas. Ça dure seulement 4 minutes et 20 secondes. Voilà.
Psaume 90. Moïse qui avait conduit le peuple d'Israël, qu'il avait vu des générations successives mourir dans le désert, qui lui-même n'est pas entré dans la terre promise. Lui qui avait besoin à la fois de patience et aussi de priorité pour bien mener sa vie, et qui nous instruit dans ce psaume comment établir et affermir nos priorités. Toi, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans et si nous sommes vigoureux, à 80 ans. Et leur agitation n'est que peine et misère, car cela passe vite et nous nous envolons. Enseigne-nous ainsi à compter nos jours. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance. Et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Et dès le premier verset, nous voyons que Moïse tout de suite pense aux générations. Et la préoccupation que j'ai en tant que père, c'est est-ce que de génération en génération, la famille Moore aura fait ce qu'elle voulait faire, à savoir passer la foi de génération en génération. Et je regarde dans cette salle et je sais très bien que la question de génération en génération vous concerne tous. Vous êtes peut-être là en tant que grands-parents et vous regardez vos petits-enfants et vous priez tous les jours, Seigneur, de génération en génération, s'il te plaît, garde-les. Vous êtes père, maman, Vous avez les mêmes préoccupations. Comment, dès le plus jeune âge, comment je peux enseigner mon enfant afin que cet enfant-là suive le Seigneur, pour que la génération qui me suive soit aussi une génération fidèle, encore plus zélée pour le Seigneur, de génération en génération. Vous êtes là, peut-être vous êtes enfant, adolescent ou même plus jeune, et vous vous posez la question de la génération. Vous vous dites, là je suis dans une famille chrétienne, là je vis la foi de mes parents, et j'essaie de me situer par rapport à cela. Est-ce que je suis vraiment dans la bonne voie? Est-ce que ce que enseignent mes parents et l'église où je suis, est-ce que c'est vraiment la vérité? J'entends tellement de choses autour de moi. Et les adolescents de nos églises sont tiraillés. Tiraillés par l'école, tiraillés par les médias, tiraillés par les films, tiraillés par la musique, tiraillés par tout ce qui se passe autour d'eux. Et puis vous êtes là, peut-être vous êtes parents, et vous êtes conscient que la génération qui vous a suivi ne suit pas le Seigneur. Et vous vivez cela comme une sorte d'échec majeur. Peut-être vous vivez ça avec une certaine culpabilité. Et vous êtes là en train de dire, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi mon enfant? Pourquoi ma fille? Pourquoi mon fils ne suit pas? Vous voyez, la question de la génération, lorsqu'on parle des priorités, est tout de suite d'une importance capitale, une importance personnelle et capitale. Que faire? Et comment orienter nos priorités lorsqu'on pense aux générations? De génération en génération, tu as été pour nous un refuge. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Dans notre maison, nous avons une règle qui n'est pas très respectée, mais après cette prédication, je retourne demain matin et je vais remettre en vigueur la règle tout de suite. Bible et bonjour et breakfast, on est une famille bilingue, avant de sortir le téléphone portable. Parce que si on veut que Dieu nous rassasie dès le matin de sa bienveillance, pourquoi on consulte tout de suite nos portables? Pour voir ce qui se passe dans le monde, moi j'aime bien lire les nouvelles, mais pourquoi je me tournerais plutôt vers cela que vers la Bible? Rassasié dès le matin de la bienveillance de Dieu envers nous, en Jésus-Christ, qui nous rend triomphants et joyeux en toutes nos journées.
Voilà, c'est parlant, c'est vraiment, ça m'a touché. Est-ce qu'on se soucie vraiment de la génération future? Je pense que oui. Et on avait vu que de génération en génération, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il est toujours le même au temps du peuple d'Israël comme aujourd'hui.
Notre Dieu est toujours le même, sa puissance ne connaît pas le déclin. Alors, depuis le début de ce culte, il est question de défis. Estelle l'a mentionné au début de son culte, les chants que nous avons chantés, je ne sais pas si vous avez vu les paroles, il était question de défis. Ce qu'a dit Philippe Moore aussi tout à l'heure, c'est un défi dans nos familles, c'est un défi de tous les jours, d'annoncer l'Évangile autour de nous et de l'annoncer aussi dans nos familles. Et effectivement, il est remarquable que nous sommes dans un défi en tant que chrétiens, quelles que soient les circonstances. C'est ce que disait le chant « Bénis l'Éternel, mon âme », dans les circonstances de notre monde. Alors, un temps pour tout. Parce qu'en fait, le thème de la convention, c'était un temps pour tout. Un temps pour tout avec un point d'interrogation. Vous avez dû le remarquer. Alors, derrière cette question se cache l'autre question. Que faisons-nous de notre temps? Je crois que nous nous la posons tous, chacun. Qu'est-ce que je fais de mon temps? Le thème de la convention est une question. Un temps pour tout? Avec un point d'interrogation. Cette question invite à une réponse de chacun. Chacun y mettra la réponse qu'il souhaitera. Y a-t-il vraiment un temps pour tout sur le plan moral ou sur le plan de Dieu? C'est la question qu'on peut se poser à chacun. Alors, avant la lecture de mon poème que je vais vous lire tout à l'heure, Je voudrais vous parler également d'un autre défi. J'aimerais faire une aparté sur une intervention d'un des intervenants. Alors, il a déjà été fait mention tout à l'heure avec Colette. Donc, c'est une intervention de cette convention dont chaque conférencier, en fait, a subtilement touché le thème du temps pour tout. C'était vraiment très bien. Il y a eu 4 conférenciers avec des sujets différents sur le thème du temps pour tout. Et c'était des conférences remarquables. Et j'ai bien apprécié celle-ci aussi, la conférence de Thierry Huser sur le Coëlète, l'Ecclésiaste. Gilles Geyser, c'est de Gilles Geyser dont il est question dans ce que je voulais vous dire. Il a attiré mon attention dans son thème « Le temps que nous vivons ». Sur justement le temps que nous vivons aujourd'hui dans notre monde. Notre période dans laquelle nous vivons est une période post-chrétienne, post-moderne, nous a-t-il rappelé. Cela signifie que notre monde évolue énormément sans qu'on s'en rende vraiment compte à notre échelle. Période post-chrétienne. Cela signifie que notre monde ne s'intéresse plus vraiment aux valeurs chrétiennes. Les quelques 1600 ans de prédominance chrétienne dans notre monde sont sur le déclin. Et pourtant, cette période-là a permis de créer le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, sur le plan moral, sur le plan économique, sur le plan du développement moderne, tout simplement. Nous sommes aujourd'hui au bénéfice du christianisme. L'une des remarques de Gilles Geyser a été de comparer le défi de l'Église, le défi dont je vous parlais là, tout à l'heure, de comparer le défi de l'Église aujourd'hui et demain d'ailleurs, à celui des premiers chrétiens qui avaient la charge de faire connaître la bonne nouvelle au monde, d'alors, dans un monde hostile. Le christianisme s'est développé dans un monde hostile. En tout cas, les juifs étaient pour la plupart hostiles à cela. Les païens ne comprenaient pas très bien non plus ce dont il s'agissait. On a des apôtres qui ont su aller par terres et mers annoncer la bonne nouvelle, donc, dont l'apôtre Paul, pour que, aujourd'hui, nous ayons ce monde-là. C'est remarquable. Notre défi, alors je reprends un peu les termes de Gilles Geyser, est celui des premiers disciples. Pourquoi ce défi ? L'Évangile est toujours. C'est un peu ce que nous avons chanté aussi il y a 2 minutes. L'Évangile est toujours, quelles que soient les orientations du monde, la valeur sûre pour ce monde qui se perd. Si l'Évangile ou le christianisme n'attire plus, cet Évangile et ce christianisme sont toujours plus que jamais à être annoncés. Pourtant, cela ne signifie pas qu'il y a moins de chrétiens dans le monde. Leurs chiffres augmentent, je dirais, au prorata de l'augmentation de la population mondiale. On sera 11 milliards dans 80 ans, plus de 3 milliards de plus qu'aujourd'hui. Donc la population augmente très vite. Le nombre de chrétiens dans le monde augmente. Mais en fait, c'est le pourcentage de chrétiens qui baisse dans le monde. Globalement, le christianisme n'intéresse plus. C'est là que se situe le défi. Et ce défi ne peut pas être mené sans Dieu, évidemment. Fin de l'aparté. J'ai intitulé mon poème « Un temps pour tout », sans point d'interrogation. C'est en effet une réalité. Il y a un temps pour tout. Tout ce que l'on fait dans la vie, on prend le temps pour le faire, n'est-ce pas ? Et il y a un livre qui a été écrit par Madame Tish Harrison Warren sur la liturgie d'une vie chrétienne qui évoque bien cet aspect-là justement de la vie de tous les jours et du temps que l'on passe à faire des tâches, de petites tâches, mais qui sont des tâches qui sont faites pour Dieu. Et qu'il y a quelque chose de Dieu dans ce que nous entreprenons chaque jour dans la vie. En filigrane de ce poème, vous le verrez, je pense, le Cohélète ou l'Ecclésiaste. L'auteur du livre du Cohélète a une approche extraordinaire de la vie, et c'est ce dont son personnage est imprégné. Le poème a une ligne directrice, vous le verrez également sans doute, allant de la condition humaine avec son état éphémère, nous sommes éphémères en tant qu'être physique, et pour se poursuivre vers une espérance fondée sur Dieu, son salut et son état éternel, éphémère, éternel. Un temps pour tout. Avec le temps, va, tout s'en va. Et tout vient pour celui qui sait attendre. Et il nous échappe et nous échappera encore et encore sans nous surprendre. Prendre le temps comme pour le maîtriser, c'est ignorer qu'il passe, car il est indomptable. Quoi qu'il en soit, il nous est compté. Car après l'avoir pris, il nous échappe. C'est inexorable. Même la musique veut le dompter, une mesure par-ci, une mesure par-là, à 3-4 temps, et que va-t-il rester? Dès qu'elle est finie, la note de fin en sonnera le glas. Nous disons souvent que le temps nous manque. Marque d'affection à son égard? Il n'en a que faire. Plutôt un signe de faiblesse dans nos affaires. Cet aveu caché révèle une coupable planque. Le temps passe et on l'oublie. Il nous devance sans savoir le saisir. Il demeure pour chaque chose de la vie. Et il nous est compté jusqu'à mourir. Un jour, un instant, le cordon d'argent se détachera. À la source, la cruche se cassera, rompant la poulie ainsi précipitée dans une chute ultime au fond du puits. Et la poussière à la terre s'en retournera. L'homme, vers sa demeure éternelle, s'en va. Et dans un temps pour tout, il s'en va pour tous les temps. Ainsi, le temps pour tout est aussi pour ça, pourtant. Comme il est le temps pour tout sous le ciel, pour naître, construire, vivre et mourir, comme l'a dit si justement le sage d'Israël, c'est avec son Créateur qu'il est important de le saisir, avant que ne viennent les jours difficiles, que la jeunesse se passe au gré des plaisirs, imbue de sa force qui ne saurait alors rester tranquille. Un temps pour tout, ce n'était pas d'essayer de le fuir, ni de courir après lui pour le rattraper. Un temps pour tout, c'est sur le moment le saisir. C'est vivre celui que Dieu a fait et qu'il a donné. Car c'est lui qui fait toute chose belle au moment voulu. Vouloir s'en extraire, c'est échapper à cette volonté par ignorance, désobéissance dans un lien rompu. Comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. Mais Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité, et ce n'est certes pas pour l'en évincer, mais bien pour qu'il en soit un être parfaitement saint, tel que le grand maître l'a voulu dans son dessein. Son propre fils a dans un temps de grâce pour notre salut accompli ce qui pour l'homme était une folie. Il a changé le cours du temps pour les perdus. Par amour pour nous, il a donné sa vie. Avec le temps va, tout s'en va. Mais gloire à Dieu, car il l'a ressuscité, l'agneau qui pour nous a été immolé. L'Éternel demeure et demeurera. Un temps pour tous est laissé le temps à Dieu, car lui seul en connaît les implications le mieux. Un temps pour tous et un temps pour Dieu. Lui seul est tout, le Créateur de la terre et des cieux.
Je vais vous lire une confession de foi de notre Église. Nous croyons que c'est par la grâce que les hommes peuvent être sauvés par le moyen de la foi. Le salut est pleinement accordé à toute personne qui, à la lumière de l'Évangile et sous l'action du Saint-Esprit, met sa confiance en Dieu, se repent de ses péchés et se réclame de l'œuvre expiatoire accomplie à la juste, à la croix. Placé au bénéfice de la mort et de la résurrection du Christ, le pécheur est pardonné et déclaré juste par Dieu. Baptisé dans l'Esprit qui le régénère, il reçoit la vie éternelle, qui implique le renouvellement de l'être tout entier. On se rappelle toujours que de génération en génération, Dieu ne change pas. Il est toujours le même. J'appelle trois personnes. Lily.
Bonjour à tous, parce qu'il y en a beaucoup que je n'ai pas salué. Alors, Michel et moi-même avons été très édifiés pendant toutes ces journées passées à la Convention. Nous avons participé à deux ateliers. Et je vais vous parler de l'atelier du temps de ressourcement spirituel. Nous étions une trentaine de personnes de différents âges. Chacun a exprimé comment il passait ce temps à être en relation avec Dieu chaque jour. La prière, la méditation, la lecture de la parole. Certaines personnes ont décrit les bienfaits que nous apporte cette relation tout au long de la journée, et aussi le besoin de venir chaque jour dans cette intimité avec notre Seigneur. Pour ma part, je suis abonnée à YouVersion, qui est diffusée dans le monde entier, et chaque jour, je me fixe un temps pour lire ma Bible en un an et faire un plan de lecture avec méditation de mon choix. Ce temps m'apporte une paix profonde. Et je voudrais vous inviter à consulter le site YouVersion, peut-être que ce site vous plaira, et vous inscrire. Et tous les jours, vous avez un moment à passer avec notre Seigneur. Voilà ce que je voulais vous dire. Et la convention a été très très belle. Et je crois que dans 2 ans, malgré mon âge, je retourne au YouVersion.
Merci.
Je crois que c'est la première fois que je vais faire de la pub pour un livre. Je ne suis pas tellement une lectrice et ça m'arrive peu souvent de dire à quelqu'un, ben, prends ce livre pour toi. Et c'est le titre de ce livre qui nous a été recommandé par Thierry Huzer à l'occasion de sa conférence intitulée Un temps pour toute chose, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher, un temps pour démolir et un temps pour construire, un temps pour pleurer, un temps pour rire, etc. Vous connaissez ce texte de l'Ecclésiaste. le titre de ce livre, Liturgie de la vie ordinaire. De la vie ordinaire, on ne peut plus ordinaire. À lire simplement le titre des chapitres, écoutez plutôt. Faire son lit, se brosser les dents, perdre ses clés, se disputer avec son conjoint, patienter dans les embouteillages, il y en a 11 comme ça. Vie ordinaire, ça on comprend, hein, on le fait tous les jours. Mais liturgie, qu'est-ce qu'elle vient faire là, la liturgie? Un mot d'ailleurs que nous n'utilisons pas, mais qui désigne le culte public, rendu à Dieu par les fidèles. Nous avons donc notre liturgie, qui se décrit dans notre manière de vivre notre culte, chaque dimanche. L'un des propos de l'auteur est de rapprocher la semaine du dimanche qu'on oppose à tort, dimanche le sacré et le profane la semaine. Et si le culte que nous vivons le dimanche venait inspirer les plus banales activités de la semaine, au point que ce dont je témoigne au culte imprègne mon comportement de tous les jours. Je vous cite la page 51. Quand je passe une bonne journée, qu'il fait beau, que tout se déroule comme il faut, je peux avoir l'air d'une personne très bien. Mais les petits incidents et les imprévus révèlent ce que je suis vraiment, page 56. Quand je perds mes clés, que je m'énerve, que je parle trop sèchement aux gens que j'aime, mes failles apparaissent et je me rends compte que j'ai profondément besoin de la grâce. Parce que, dit-elle, Dieu me cherche quand je cherche mes clés. Je n'en dis pas plus. Lisez ce livre, Liturgie de la vie ordinaire.
Juste une seconde. En fait, en ce moment où Thierry Huser avait dit, il y a un livre très intéressant. Et j'ai couru après, pendant l'intervention, je voulais me lever pour chercher le livre. J'ai couru et j'ai eu le dernier livre. Voilà, juste pour une histoire. Ouais.
Ça va, vous avez encore un petit peu d'énergie? Parce que c'est un puzzle aujourd'hui, le culte. Le culte, c'est un peu un puzzle et je vais juste terminer par... une autre intervention, bien vivre nos limites. Donc Yad a montré une intervention en vidéo. Moi, je vais juste donner quelques petites pistes de cette intervention qui était pendant une heure. Donc évidemment, ça va pas être pendant une heure, ça va être pendant cinq petites minutes. C'est un thème qui m'a touchée, bien vivre nos limites, comment voir les limites dans sa vie de tous les jours. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire, j'ai pris quelques petites idées. De l'orateur qui s'appelait donc Luc Torini, qui est en Belgique. Alors, être épanoui dans notre vie de chrétien, on peut l'être en voyant nos limites comme des dons. Alors ça déjà, c'est pas évident à accepter forcément. On a des limites et on doit les voir comme des dons. Alors il a fait un petit retour sur la création et il a dit qu'est-ce qui se passe au moment de la création? Ben, Dieu a placé des limites. Il a mis de l'ordre à la place du désordre. Vous connaissez les versets du début de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Donc Dieu, il nous a placés sur cette terre pour qu'on prenne soin de cette terre et qu'on vive dans l'amour, qu'on vive en étant juste aux yeux de Dieu et aussi pour que cette gloire de Dieu rayonne jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu, il a toujours voulu être notre allié. Il a voulu que l'humanité s'associe à ses plans. Et le septième jour de la création, ben Dieu, il se repose de son travail. Et il en a fait un jour sacré, un jour à part. Et contrairement aux autres jours de la création, ce jour du septième jour semble être appartenir à un autre temps, le temps de Dieu. On le voit dans Genèse 2, le septième jour, donc Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé et il se reposa de toutes ses œuvres. Il bénit le septième jour, il en fit un jour saint. Et vous voyez la suite. Ce jour qui est le temps de Dieu sera appelé sabbat par le peuple d'Israël. Ce sera un jour de repos, mais pas comme certains de nous même on peut le vivre ou d'autres, de juste remplacer le travail de la semaine par des activités ludiques ou sportives. Le sabbat qui est bien compris, c'est une qualité de temps qui est considérée hors du temps minute seconde. Mais c'est un jour où les activités de tous les jours, ben, ça peut être réduit pour se concentrer à la chose nécessaire qui est Dieu unique en qui nous mettons notre confiance et qui poursuivra ce qu'il a commencé en chacun de nous. Alors, pourquoi le sabbat ? Ah ben, tout simplement parce que dans le sabbat, Dieu y pose une limite à notre temps afin de laisser place à son temps, celui de l'alliance et de la communion. Donc une autre limite qu'on trouve dans la Bible tout au début, c'est dans le jardin d'Éden, l'interdit de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc vous le savez, Adam et Ève, ben, ils n'ont pas respecté cette limite. Ils ont mangé du fruit. Et quel en est le résultat ? Ah ben, Dieu n'est plus au cœur de notre vie. L'humanité n'est plus en communion avec Dieu. Nous, on se retrouve dans un monde de solitude, sans boussole, désorienté, sans vraiment savoir discerner entre le bien et le mal. Et on s'enferme dans un autre temps, c'est le temps physique. Vous le connaissez tous, ce temps physique. On court après le temps, on n'y arrive pas, mais on reste que là-dedans, dans ce temps où il y a des heures, des secondes, des minutes, des années. Et on ne vit plus le temps de Dieu. Le problème, c'est que Dieu n'est plus au cœur de notre vie. Et c'est vrai, dans notre humanité aujourd'hui, qui est sans Dieu, elle se pose la question, qui sommes-nous ? D'où est-ce qu'on vient ? Qu'est-ce qu'on fait sur la terre, en fait ? Et où est-ce qu'on va ? Et ce qui est dommage, c'est que les limites que Dieu avait posées, c'était des fenêtres. Des fenêtres sur une communion, un sens à notre vie. Mais nous, les hommes, on l'a perçu comme une menace et on l'a rejeté. Et alors, comment Dieu il peut trouver sa place dans un monde après la chute d'Adam et Ève ? Alors, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Dieu va appeler un homme, une famille, un peuple. Et il va leur réapprendre à retrouver le centre et la confiance. Afin qu'au travers de cet homme, de cette famille et après de tout un peuple, toutes les nations puissent être éclairées. Cet homme, c'est Abraham. Il va apprendre à marcher par la foi. Il va aussi réussir l'épreuve du manque, de l'insécurité. Et au bout, il va être capable de garder les yeux fixés sur les promesses de Dieu. Il devra apprendre à ne pas paniquer. Accepter le manque, c'est se recentrer sur le Créateur, sur sa parole. Apprendre à faire confiance à Dieu et qu'il accomplira ce qu'il a promis. Donc il y a plein d'exemples dans la Bible. Je vais juste prendre celui de la manne. La manne dans le désert, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu avec le peuple d'Israël, mais Dieu avait donné une quantité nécessaire stricte par jour et certains, ils en avaient gardé un peu pour le lendemain. Et puis ceux qui avaient gardé pour le lendemain, ben, la manne était gâtée, pourrie. Pourquoi ? C'est la pédagogie de Dieu. Il veut nous amener au point intérieur le plus insécurisant pour qu'on lui laisse la place qui lui revient. Il veut vraiment qu'on soit à l'extrême limite pour qu'on dépende complètement de lui. Parce qu'il nous a dit, je pourvoirai, je prendrai soin de toi. Et dans le peuple d'Israël, on voit qu'ils sont souvent dans le désert. Et le désert, c'est pas un lieu où on est perdu, où on erre. C'est vraiment un lieu de transformation par excellence. Le désert, c'est le lieu où Dieu nous conduit hors de notre zone de sécurité et de maîtrise, afin que lui puisse prendre toute la place. Mais en Israël, avec le peuple d'Israël, le temps de Dieu ne s'installe jamais. Le royaume de Dieu, il n'a pas pu être inauguré dans sa plénitude. Aucun roi ne résiste durablement à l'épreuve du manque. Qui pourra faire venir donc ce temps spécial sur la terre? Jésus dit, le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. En Jésus, le temps de Dieu et le temps de l'homme se mêlent et ne font qu'un. Jésus est dans un autre temps. Jésus est le maître du sabbat. Il ne se laisse pas manger par les tentations du physique. Et on le voit dans le récit de la tentation. Il montre combien Dieu refuse l'évitement du manque. Et face à l'adversaire qui le tente, il va dire « Ce n'est pas du pain seulement que l'homme vit. » On voit bien que Jésus a son centre dans le Père céleste. Donc en Christ, l'humanité est conduite à son achèvement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'avoir peur de nos manques, de nos limites, de nos échecs et de nos péchés ou de nos blessures. Parce qu'en Jésus-Christ, dorénavant, toute notre vie peut être transformée. Il n'y a plus de malédiction. On peut accepter nos limites, on peut accepter nos manques. Et concrètement, comment on va vivre avec nos limites? Comment on va faire? C'est ma dernière page. Comment on va faire pour vivre ces limites? Eh bien, on va accueillir les limites comme une occasion pour Christ de prendre sa place. C'est légitime, on a tendance à se crisper. Hein, quand on a des limites dans notre vie, on voit ça comme un obstacle, on voit ça comme quelque chose qui nous va pas du tout. Et on comprend pas tout. On est parfois vulnérable, on peut pas tout contrôler. Et on connaît parfois des circonstances difficiles dans notre corps. Alors, bien sûr, il y a la maladie, il y a le handicap, mais il peut y avoir un mariage difficile, une situation professionnelle difficile, ou des incompétences, ou des carences, des manques, ou un trouble dans notre identité. Pour bien vivre nos limites, déjà, il faut apprendre à les accepter. Et les accepter comme une occasion pour le Seigneur de prendre sa place. C'est surtout prendre conscience qu'en Christ, cette circonstance de vie, cette situation, ah ben on peut l'offrir à Dieu telle qu'elle est. Alors comment y arriver? Déjà, trouver son centre en Christ. Trouver son centre en Christ et entrer dans une confiance totale. Comme Pierre qui a marché sur l'eau, ben quand il a commencé à voir que l'eau, qu'il y avait des vagues et tout, il a commencé à sombrer. Mais garder les yeux fixés sur Christ. La deuxième chose, c'est être, comme l'apôtre Paul l'a dit, être fier de nos faiblesses, reconnaître ses faiblesses et en être fier parce que grâce à la puissance de Christ, c'est par la puissance de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse. Et pour terminer, toutes ces limites, tout ce que tu crois être un obstacle à ta vie, à la vie à laquelle tu aspires, ben ça peut être une occasion pour Dieu de manifester sa puissance dans ta vie et Dieu sera glorifié aux yeux de tous.
Dans ma partie, j'ai parlé de génération en génération. Il y a 3 B. C'est quoi le premier? 2 et 3. Voilà, donc n'oublie pas, Bible en premier, bonjour, préfète, et après, quand vous voulez, le téléphone ou autre. Voilà, et merci Seigneur pour ce moment, et bonne semaine à tous, et à une prochaine fois.